Excellent réveil à tous, il est 7h sur France Culture et on débute avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. D'un côté, des rames de métro et des magasins bondés mais autorisés. De l'autre, des fauteuils vides au cinéma et des salles fermées au moins jusqu'au 7 janvier. Cette vidéo du distributeur Le Pacte, largement partagée sur les réseaux sociaux, illustre la tristesse et la colère dans le monde de la culture. Après les annonces hier soir de Jean Castex, réaction et point sur la situation sanitaire dès le début de ce journal.
Et puis un autre effet de la pandémie, les émissions de CO2 ont diminué globalement de 7% cette année.
Une baisse inégale mais inédite et cela tombe à pic à la veille des 5 ans de l'accord de Paris. L'occasion de voir où nous en sommes en termes de neutralité carbone, un engagement de la COP21, un équilibre à atteindre en 2050, ne pas émettre plus de CO2 que ce que l'on peut absorber.
Et puis à la une encore, ce nouveau coup diplomatique de Donald Trump.
Avant de quitter la Maison Blanche, le président des États-Unis a obtenu du Maroc un accord historique de normalisation avec Israël. En échange, Washington reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental aux grandes dames des indépendantistes sahraouis.
Et puis dans une dizaine de minutes du virus, toujours et donc une radiographie du coronavirus, ça sera avec Nicolas Martin, Catherine.
La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, n'était pas là hier soir lorsque Jean Castex l'a annoncé.
Les établissements recevant du public, dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre, resteront fermés 3 semaines de plus. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées.
L'annonce de Jean Castex est donc tombée hier soir comme un couperet pour le monde culturel. Le rideau reste baissé au théâtre, écran noir, au cinéma, musée fermé pour au moins 3 semaines encore. Même si tous ces établissements disposent de protocoles sanitaires, a reconnu le Premier ministre, la logique reste d'éviter d'accroître les flux. Un discours qui n'apaise pas les professionnels de la culture, Claire Flauchel.
La déception est à la hauteur des espoirs qu'avait fait naître l'allocution présidentielle fin novembre. Manque de logique par rapport aux précautions sanitaires mises en place, sentiment d'injustice aussi par rapport aux magasins ou aux lieux de culte. C'est ce que dit François Aimé, président de l'Association française des cinémas d'art et d'essai.
La culture n'est pas dans les priorités tout simplement. Et on voit bien qu'on arrive les derniers et que le seul argument c'est la question du nombre. Mais finalement, le nombre, il existe aussi dans les transports, il existe aussi dans les galeries marchandes, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est évidemment abattu.
D'autant que cette période des fêtes pour les lieux culturels est essentielle, la plus importante même pour les théâtres, selon Bertrand Tamin, président du syndicat national du théâtre privé.
C'est vraiment le cœur de la saison, c'est à ce moment-là qu'on remplit les salles et c'est avec les recettes de ces périodes-là qu'on vit toute l'année. Donc rester fermé jusqu'au 7 janvier, c'est un coup d'épée dans le dos terrible.
De nombreux films dont la sortie avait déjà été repoussée sur trouvent une nouvelle fois dans l'attente d'une date. Idem pour les spectacles prévus à l'affiche des théâtres. Des centaines de milliers d'euros gaspillés pour la promotion. Alors il va falloir changer de stratégie, dit Bertrand Tamin.
Ce qui est sûr, moi j'ai eu un certain nombre de confrères depuis l'annonce. On s'est fait avoir une fois à faire des préparatifs à une date qu'on nous avait fait miroiter. Là maintenant, on va arrêter de dépenser de l'argent en pure perte, d'engager des comédiens pour les faire répéter, de dépenser de l'argent en publicité, etc. Maintenant, on va attendre le feu vert officiel pour lancer les préparatifs, c'est-à-dire que les théâtres ouvriront fin janvier, pas avant.
Et certains annoncent déjà qu'ils vont se battre, qu'ils vont tout faire pour faire changer la décision du gouvernement.
Un monde sans culture est un monde sans avenir, écrit l'Académie des Césars, comme un écho à cette vidéo virale sur les réseaux sociaux, qui oppose donc des lieux bondés dans les transports et les magasins aux fauteuils vides dans les salles de cinéma. Le Pacte signe ce montage, lui qui distribue le film ADM de Mai Wen, privé de salles 2 jours après sa sortie, fin octobre, et pour lequel Jean Labbadie venait de dépenser 150 000 euros d'encarts publicitaires en vue d'une reprise du film le 15 décembre, mais avec 13 750 cas positifs au Covid-19 recensés en France hier. Nous sommes toujours très loin des 5000 cas par jour visés par l'exécutif pour le déconfinement. L'exécutif qui parle désormais d'un plateau dans cette deuxième vague épidémique, Laura Dulieu.
Exactement, un plateau. Cela veut dire que certes, depuis la mise en place de ce confinement, l'épidémie a reculé. Fin octobre, la France avait l'une des pires situations en Europe. Désormais, c'est l'une des meilleures, ou en tout cas l'une des moins pires. De 60 000 cas par jour au pic de la deuxième vague, on est désormais à environ 10 000 cas quotidiens. En revanche, depuis quelques jours, ce chiffre stagne. Le nombre de cas ralentit moins vite, voire augmente à nouveau légèrement ces derniers jours. Ces dernières 24 heures, 14 000 cas ont été diagnostiqués. Ce plateau peut être dû à plusieurs facteurs, à commencer par le froid et l'humidité arrivés avec le mois de décembre. Il y a sans doute aussi, selon Olivier Véran, un relâchement collectif de la vigilance et un brassage plus important de la population, notamment depuis la réouverture des commerces. Pour ce qui est des malades en réanimation, la baisse est bien là. Nous sommes passés juste sous le seuil des 3000 personnes en réanimation. Mais là aussi, cette baisse ralentit. Elle pourrait même s'inverser dans les prochains jours, d'où le déconfinement plus strict que prévu. Car le ministre de la Santé prévient, du plateau à un nouveau pic de l'épidémie, cela peut aller très vite.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutuot. Autre effet de la crise du Covid dans le monde, les émissions de CO2 ont diminué globalement de 7% cette année, c'est du jamais vu. Ce sont des scientifiques de différents pays réunis dans le Global Carbon Project qui publient leurs chiffres ce matin.
À la veille des 5 ans de l'accord de Paris, cette chute record concerne surtout les États-Unis et l'Europe, là où l'activité s'est arrêtée le plus longtemps. Les émissions de CO2 ont diminué de plus de 10%. En revanche, en Chine, la baisse est très faible, moins de 2%. Les émissions sont reparties de plus belle dès le mois d'avril, mais quoi qu'il en soit, cela ne changera rien au fait que l'on est parti vers plus 3-4 degrés d'ici la fin du siècle, alors que les pays signataires de l'accord de Paris sur le climat s'étaient engagés à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Bonjour Véronique Rebérotte.
Bonjour.
Avec vous ce matin, nous allons voir où nous en sommes sur l'objectif de l'accord de Paris sur la neutralité carbone.
Alors ce n'était pas un objectif de l'accord de Paris, hein, pas du tout, on n'en parlait pas à ce moment-là il y a 5 ans, mais environ 120 pays sur les 194 de la Convention climat des Nations Unies, qui représentent à eux tous 65% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont pris cet engagement plutôt ces dernières années, ces derniers mois. Neutralité carbone, ça veut dire, eh bien, pour un pays, ne pas émettre plus de gaz à effet de serre qu'il ne peut en absorber, par exemple, eh bien, en plantant des arbres ou en capturant le CO2 grâce à des technologies avancées, innovantes. L'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, c'est une annonce récente de Joe Biden, eh bien annonce une neutralité carbone pour 2050, 2060 pour la Chine, le pays le plus émetteur de CO2 au monde. Sur le papier, l'idée est séduisante. Il faut maintenant s'engager dans des plans climat ambitieux. Selon Sébastien Treyer, c'est le directeur de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales.
Il faut que les pays qui ont fait ces annonces les concrétisent dans des plans climat rénovés avec ambition accrue, dans un alignement des décisions économiques qu'ils vont prendre dans leur plan de relance. Des milliers de milliards sont aujourd'hui mobilisés pour la relance économique. Que ça soit aligné avec l'objectif de long terme. Et cet engagement de neutralité carbone, ça, il y a eu un calcul, une étude qui montre que s'ils sont vraiment tenus, on pourrait contenir le réchauffement de la planète à 2,1 degrés à la fin du siècle.
Là, on voit bien la tentation des États de privilégier de ces objectifs à long terme, sans véritable trajectoire jusque-là. Une neutralité carbone auquel il faut associer aussi les villes, les entreprises, ne s'obtient pas du jour au lendemain sans modifier structurellement nos économies. Et là, on peut dire que ce n'est pas tout à fait gagné.
Véronique Rebérotte en direct ce matin sur France Culture. Et demain, la France, l'ONU et le Royaume-Uni co-organisent un sommet à l'occasion du 5e anniversaire de cet accord de Paris. Ils invitent les pays à rehausser leurs ambitions. La Chine, responsable de plus d'un quart des émissions mondiale de gaz à effet de serre, avec un quart également de la population mondiale, a été l'un des signataires décisifs de l'accord signé le 12 décembre 2015. Mais dans le même temps, le premier pollueur mondial multiplie les constructions de centrales à charbon, une stratégie analysée à Pékin par Dominique André.
La Chine a des ambitions vertes tout en répondant aux besoins énergétiques de ses habitants qui représentent près d'un quart de la population mondiale. Les experts chinois ne manquent jamais de rappeler cette évidence, ainsi que cet autre argument. Les entreprises étrangères qui produisent dans l'usine du monde ont aussi leur part de responsabilité dans la capacité de la Chine à polluer. Dans son discours de fin septembre à New York, Xi Jinping a créé la surprise en annonçant de nouveaux objectifs verts, promettant que la Chine commencerait à réduire ses émissions de CO2 avant 2030 et atteindrait la neutralité carbone d'ici 2060. Emmanuel Macron, qui s'est entretenu au téléphone mercredi avec Xi Jinping, a salué les annonces chinoises. Mais en privé, des experts occidentaux s'interrogent sur la capacité à les atteindre. La Chine est le premier investisseur mondial dans les centrales à charbon, à l'origine de 40% des émissions de CO2. De nouvelles centrales sont planifiées encore en Chine, mais aussi à l'étranger, dans le cadre des routes de la soie, en Asie et en Afrique, pour qui l'avenir énergétique serait donc lié au charbon. Dans le bouquet énergétique énergétique chinois, la croissance de l'éolien et du solaire augmente certes, mais moins vite que ce que l'on souhaitait, analyse un expert. Les engagements de la Chine seront-ils suffisants pour être en deçà des 2 degrés de hausse de la température mondiale prévue par l'accord de Paris? Ce n'est pas évident.
Dominique André à Pékin pour France Culture. Contre la Chine et la répression des Ouïghours dans la province du nord-ouest du Xinjiang, le footballeur Antoine Griezmann a décidé de mettre fin à ses liens commerciaux avec le géant technologique chinois Huawei. Il évoque l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale des Ouïghours auquel Huawei aurait contribué. Jusqu'au bout, l'administration Trump aura œuvré au rapprochement de pays arabes avec Israël. Après les Émirats et Bahreïn à la fin de l'été, Washington a annoncé hier que le Maroc et Israël allaient normaliser leurs relations. En contrepartie, Washington reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, alors même que de nouvelles tensions ont éclaté avec le Front Polisario à la frontière mauritanienne. C'est une autre avancée historique aujourd'hui, a écrit Donald Trump sur Twitter. Une annonce largement commentée à Casablanca, le reportage de Cédric Ralfi.
Là où plutôt les nouvelles ont fait l'effet d'une bombe au Maroc, à l'annonce de la reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, les médias ont enchaîné les éditions spéciales saluant une décision historique.
Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.
En pleine tension avec le Polisario, du côté de l'opinion publique, c'est la question du Sahara qui intéresse. Pour la partie normalisation avec Israël, un communiqué du Palais Royal a mis les choses au clair. Cette normalisation s'inscrit dans le cadre de la solution à deux États et elle n'induit pas une désolidarisation de la cause palestinienne. Dans la communauté juive marocaine, l'annonce a été célébrée. Nicole, très émue, y a vu un signe en cette soirée de Hanouka.
C'est la première bougie de Hanouka, donc ça vient vraiment avec une bonne nouvelle, ce rapprochement avec Israël et le Maroc. Ça va sûrement faciliter beaucoup les choses pour nous, la communauté juive du Maroc. Et j'espère que ça va permettre enfin une ouverture vers la paix.
Pour Yannick de Casablanca, ce deal est bénéfique pour tout le monde.
C'est à la fois une avancée vers la paix et une avancée vers la reconnaissance de nos droits ancestraux sur le Sahara. Ça ne peut qu'être bénéfique pour tout le monde. Je pense que c'est ce que l'histoire retiendra d'ailleurs.
Reste désormais à savoir comment vont réagir le Polisario et l'Algérie voisine à cette annonce à la Trump.
Et alors que Donald Trump quitte la Maison Blanche le 20 janvier prochain, le président élu Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont été désignés aujourd'hui personnalité de l'année par le magazine Time. Varsovie et Budapest rentrent dans le rang. Les dirigeants de l'UE ont ouvert la voie hier au plan de relance massif post-Covid avec un compromis qui a permis de rallier donc la Pologne et la Hongrie, tout en préservant un nouveau mécanisme sur le respect de l'état de droit. Plus de 1000 milliards d'euros sont ainsi débloqués pour le budget pluriannuel qui court de 2021 à 2027, mais aussi et surtout le plan de relance de 750 milliards d'euros auquel s'adossent des plans de relance nationaux comme en France. On y revient dans le journal de 7h30. Le temps de ce vendredi 11 décembre, partagé entre soleil et des pluies avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'Atlantique. Au meilleur de la journée, il fera entre 4 et 16 degrés du nord au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques minutes, vous retrouverez sur France Culture comme personne notre rendez-vous du vendredi. Portrait ce matin d'un restaurateur à Paris connu habituellement pour sa cuisine basque et désormais dans un combat contre les assureurs en ces temps de confinement. Et puis dans quelques secondes, c'est la radiographie du coronavirus consacrée au vaccin anti-Covid.